Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 51, le rocher d'or de Chaktio. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et comme à chaque fois, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va continuer notre découverte de la Birmanie, le Myanmar. C'est le cinquième épisode déjà sur la Birmanie et vous allez le voir, on n'est pas encore au bout de nos découvertes car le pays a beaucoup à offrir. Et aujourd'hui, en compagnie de Thierry Robinet, que vous connaissez maintenant très bien, nous allons découvrir le rocher d'or de Chaktio ou pagode de Chaktio qui se situe à l'est de Rangoon et qui justifie selon nous, à lui seul, un épisode. Alors bienvenue à nouveau en Birmanie. Alors bonjour Thierry, comme d'habitude ça fait très plaisir de te retrouver dans l'émission pour ta 26e contribution déjà à Sur les routes de l'Asie, donc ça commence à faire un sacré nombre d'épisodes et pas mal d'heures d'écoute pour écouter tes aventures, tes récits de voyage. Et aujourd'hui on va continuer notre voyage en Birmanie. On avait parlé dans les 4 épisodes précédents sur ce pays de Bagan d'abord, des merveilleux temples de Bagan, puis du plateau Shan et de son lac Inle, pour aller ensuite découvrir le Mandalay et les anciennes capitales royales aux alentours, et enfin pour découvrir les mines de jade et de rubis à Pakhant et Mogok. Il y a encore une chose, il y a encore beaucoup de choses à faire en Birmanie, mais il y a une chose aussi qui est absolument immanquable pour un voyage en Birmanie, c'est le rocher d'or de Chaktio, qui est cet énorme rocher couvert de feuilles d'or qui se situe à l'est de Rangoon et qui constitue un haut site religieux pour les Birmans. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire déjà, c'est quoi ce rocher d'or? Parce que c'est son histoire aussi qui est intéressante.
Bonjour Romain, aujourd'hui nous allons retourner en Birmanie et je vais vous parler du rocher d'or de Chaktio. Ce fabuleux rocher d'or, une des grandes merveilles de la Birmanie encore, qui se trouve posé sur une pierre tabulaire en haut des collines Mon, à plus de 1200 mètres d'altitude, un rocher tout en or. Alors quand on arrive et qu'on le voit de loin comme ça, ce rocher qui brille dans le soleil, on se dit que c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi? Donc les légendes et l'historique de ce rocher a vraiment de quoi étonner, parce qu'il y avait un moine qui se promenait en Birmanie et qui cherchait un endroit pour pouvoir construire un stupa et y poser des cheveux du Bouddha. Il avait fait un long trajet, il avait des cheveux du Bouddha et une partie de clavicule du Bouddha, et il est parti dans la montagne du territoire Mon pour trouver un rocher qui ressembla au crâne de ce moine. Et de là, il construirait une pagode, un stupa dessus, et il irait en chasser comme ça les cheveux précieux du Bouddha. Et c'est là qu'il a atteint Chaktio dans la montagne, et qu'il a vu un boulder, les boulders en anglais, donc cet énorme rocher qui est posé vraiment sur un autre rocher. Il en a fait un coin très vénéré depuis des siècles et des siècles. Donc depuis, on y a mis des feuilles d'or, on y a accroché des pierres précieuses au sommet, comme toute la Birmanie sait bien le faire. Et ça devient l'un des piliers du bouddhisme et des pèlerinages sur ce pays qui est la Birmanie, quoi.
Ouais, alors raconte-nous comment toi tu as découvert ces lieux dans les années 80, j'imagine que ça devait être l'aventure à cette époque.
Donc moi à l'époque, dans ma quête d'aventure dans les années 80, j'avais entendu parler d'un grand lieu de pèlerinage comme ça, de tous les bouddhistes birmans, au bord de cet immense rocher doré, la feuille d'or. Je me souviens d'avoir vu aussi une photo dans un vieux magazine de deux moines comme ça qui étaient au bord de ce rocher d'or. Ça marquait, quoi. Donc pour y aller de Rangoon, à l'époque il fallait au moins 8 heures de route. Maintenant il en faut à peu près 4-5 heures pour arriver au pied. À Kinmon, au pied de ces montagnes, ces collines Mon. Je me souviens qu'à l'époque, il fallait s'arrêter dans un poste militaire. Il fallait qu'on prenne une autorisation spéciale. Il y avait des militaires qui montaient dans la voiture avec des armes. Et au départ de Kinmon, on y allait à pied. Il y a 12 kilomètres qui font de montée pour aller là-haut. 12 kilomètres où tout le long on a des mini chaktio, où il y a aussi des balayeurs qui nettoient le chemin, donc moyennant obol, des petits magasins où on peut s'arrêter pour pouvoir se faire des massages avec des onguents de jus de tête de chèvre mélangés avec des scolopendres, des scorpions. Oh, bah c'est fabuleux tout ce que les nattes, tout ce que les génies birmans sont capables de créer. Donc les hommes ont fait ça et c'est bien parce que ça marche, parce qu'en plus dans les forêts birmanes il y a beaucoup de camphres, donc d'arbres de racines odorantes et qui sont excellents pour la pharmacopée. Donc voilà, sur cette route de Chaktio, en plus, avant d'atteindre Kinmon, donc on passait d'abord par la ville de Pegu, qui a été une ancienne capitale royale, et où là aussi il y a il y a le plus grand Bouddha de Birmanie, par exemple le Shwetalyong, qui fait plus de 54 mètres de longueur, pour une vingtaine de mètres de hauteur. Il y a la Shwemodo, qui est une pagode qui fait 90 mètres de hauteur, qui a presque la taille de la Shwedagon. Donc tout ça, sur la route de Chaktio, ce sont déjà des choses qu'il faut voir, donc qui sont intéressantes. Ensuite, passé Pegu, la route se rétrécit beaucoup en direction de Moulmein. Moulmein qui est un port sur le golfe de Martaban. Et là, on rentre dans le territoire Mon. Il faut savoir qu'historiquement, les Mon ont été le peuple qui était peut-être le plus évolué. Bien avant il y a eu les Piu avant eux, mais les Mon ont amené vraiment le bouddhisme en Birmanie. Quand Pagan a été créé avec le roi Norata, ils sont allés piocher dans le peuple Mon les érudits pour pouvoir construire leur capitale, sinon ils n'auraient jamais réussi. Sur cette route, des routes qui sont pas larges, qui est toujours pas large d'ailleurs, mais qu'elle est en bon état maintenant à l'heure actuelle. Souvent, on passait à l'époque à côté de pénitenciers, où très souvent, moi j'ai vu dans les années 80-90, des prisonniers enchaînés avec des morceaux de ferraille autour des chevilles, ils avaient les jambes toutes abîmées. Donc ils allaient casser du caillou dans les carrières, la pierre blanche en plus, sous un soleil de plomb. On peut penser que ceux qui travaillaient là, c'était, prisonniers politiques ou prisonniers de droit commun ou criminels, quoi, parce que c'était dur. Parce qu'il y en avait un peu plus loin qui était quand même un peu mieux traité, parce qu'il travaillait dans les plantations d'EVA. Donc on arrive à Kinmon, qui est le camp de base de Chaktio. 12 kilomètres à faire d'une montée raide pour atteindre le Nirvana. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile pour tous les touristes, mais il y a une route qui a été asphaltée et on peut y aller, bon, moyennant finance, en camion, dans une benne de camion, avec des petits strapontins derrière, où on se trouve à 50 dans le camion, à fond les manettes, parce que les chauffeurs, ils savent qu'ils doivent le faire à l'aller-retour. Il y a tellement de monde qui veut aller à Chaktio. Et bon, j'imagine que ces camions, qui sont tous pareils, par dizaines, ils appartiennent à une seule compagnie, c'est-à-dire à un seul même homme. Cet homme est certainement un personnage important de la région, militaire ou pas, peu importe. Mais personnellement, moi je pense que le trajet est beaucoup plus intéressant à faire à pied, aller-retour. Aller d'abord parce qu'on a près de 800 mètres de dénivelé, donc ça monte avec des escaliers et tout. Et puis comme je vous ai dit, avec tous ces petits magasins qui sont longs, mais on est bien parce qu'on est vraiment dans le monde des Birmans là. On est dans le monde, c'est pas les camions, c'est pas le business, on est vraiment dans le monde, on va découvrir un rocher à pied. Donc c'est quelque part son karma, on fait le chemin, le cheminement, quoi. C'est tout un petit monde en soi, comme sur les chemins de Compostelle, je dirais, ou quand on va à la grotte de Lourdes, voilà. Donc quand on arrive sur les sommets de Chaktio, on aperçoit à l'ouest tout le golfe de Martaban avec le fleuve Sitong. Donc c'est là que le soleil va se coucher, c'est absolument fabuleux au soleil couchant. Et quand on regarde de l'autre côté, la frontière thaïlandaise est distante d'à peu près 60 km. Donc on se trouve dans l'état Mon et dans l'état Karen. Donc moi je suis allé X fois à Chaktio, bon il y a toujours des échauffourées, donc on n'a pas le droit de partir et dire tiens je vais partir en trek, 60 km c'est rien, ça ferait quelques jours de trek, c'est interdit. Parce que la guérilla Mon et la guérilla Karen, dans certains coins avec les Karenis, surtout le quartier général des forces Karenis de Manerplo est pas très loin, mieux vaut pas y mettre son nez, quoi. Voilà. Moi, je me souviens que dans les années 80-90, bon, les militaires étaient très suspicieux envers les étrangers. Et moi, quand j'y suis allé pour la première fois, j'étais tout seul, hein. Il n'y avait ni hôtel, on dormait dans des dharamsala, comme on appelle, quoi, comme en Inde, des dortoirs avec tout le peuple, ça faisait un boucan pas possible, on mangeait assis par terre, c'était pas simple. Mieux valait aller dormir avec les moines, on était tranquille, parce que eux, les moines, c'est toujours pareil dans le bouddhisme. Les moines, ils sont choyés, on leur amène à manger tous les jours, ils vont avec leur bol, ils mangent comme des rois, mais le petit peuple, c'est pas pareil. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, avant d'en arriver, bon, au Rocher d'Or lui-même, donc dans ces années 80-90, comme je devais monter au Rocher d'Or, j'avais 24 km aller-retour, que je marche, je cours ou je me repose, j'étais littéralement scotché à un militaire qui venait avec moi en armes. Donc si par exemple j'avais envie d'aller faire pipi, il venait faire pipi avec moi. Si je courais, il courait. Si je m'asseyais, il s'asseyait. Et quand on devait manger, il venait manger avec moi, puis c'est toujours moi qui payais, quoi. Donc c'était bien rigolo. Mais bon, à la fin, finalement, on s'en fait des potes, quoi. Et à l'époque, dans les années 80, on avait le droit de visiter que l'esplanade du Rocher d'Or, ce qui était déjà, je pourrais dire, assez gratifiant, parce que ce lieu couvert de stupas, de temples, et ce rocher mythique, où 24 heures sur 24, les hommes, uniquement les hommes, les femmes n'ont pas le droit de rentrer, on vient coller nos feuilles d'or. Moi, je l'ai fait X fois. On va dans une petite boutique où on achète un petit carnet de 10 feuilles d'or pour, je sais pas, on va dire peut-être 1 euro. Et on va, droit des hommes uniquement, sentir la fin du jour venu au milieu des effluves d'encens, les milliers de bâtons qui se consument au soleil couchant face à la plaine du Sitong. Coller ces feuilles d'or, regarder les moines qui sont vraiment en extase. Loin, le peuple qui est loin, qui est en méditation, je peux vous dire que ce sont des moments magiques et pleins de grande majesté, de sérénité même.
Ouais, et comme tu le décris, on arrive presque à s'imaginer en méditation là. Alors, il y a quoi exactement autour du rocher ?
Le rocher d'or, c'est au sommet d'une colline, ça plonge direct 300 mètres d'un côté, et de l'autre côté, ça plonge direct 300 mètres. Et après, il y a que des collines de jungle, de montagne, à perte de vue. C'est une très bonne question, Romain, quand tu m'as dit ça. Personnellement, moi, je voulais aller plus loin. Ce rocher, je l'avais vu, j'y ai passé des heures et des heures à regarder les gens méditer, à moi-même rester aussi, je ne veux pas dire en méditation, mais en repos, comme ça, un petit peu comme une méditation, un petit peu de yoga, pour sentir vraiment le coin. Donc personnellement, par curiosité, par esprit d'aventure, j'avais envie de me promener sur l'autre sentier des pèlerins, pas celui qui venait de Kinmon jusqu'au Rocher d'Or, je voulais voir celui qui venait du territoire Mon vers le Rocher d'Or. Donc ça, c'était après. Donc, passer tous les magasins de guérisseurs qui soignaient les mollets ou les rhumatismes avec du jus de tête de chèvre mélangé à des scolopendres, des scorpions, des peaux de serpent et des écorces d'arbres, ça vaut la peine de le voir. Par contre, pour celui qui est protecteur de la nature et des animaux, comme je le suis, voir des ours entiers découpés, des peaux d'ours qui sèchent, des pitons, moi j'en ai vu, mais des centaines, voire des griffes de léopard, des pattes de léopard, des pattes d'éléphant, des morceaux de dents d'éléphant, tout ce qui est du tigre, tout ce qui doit être protégé et qui est encore en grande quantité dans ce pays qu'est la Birmanie, parce que la Birmanie est un des pays d'Asie du Sud-Est où il y a le plus de tigres, de léopards, d'éléphants sauvages, etc. C'est vrai que ça fait mal et que tous ces guérisseurs... ils n'en ont rien à faire de la faune et de la flore. Donc c'est un peu comme en Indonésie, donc il faut toujours se battre et puis peut-être en parler pour qu'un jour ça arrête. Mais je peux quand même dire que le tourisme grandissant sur Tchaktio, beaucoup d'Européens, surtout les Français, beaucoup de Français, quand ils ont vu tout ça, c'est passé dans les réseaux sociaux, ça passe sur Facebook, etc. Et le gouvernement birman a changé. Parce que les dernières fois où je suis allé sur le rocher de Tchaktio, maintenant quand on y va, il y a beaucoup moins entre le descendre du camion pour aller jusqu'au rocher d'or. Déjà, les magasins vendent plus que, si on voit du porc épic et puis toujours des ongans, mais sans tout ça. Sauf que les animaux, je suis persuadé qu'ils sont derrière, on les voit plus, mais dans les ongans, ils sont là. Mais dès qu'on a passé l'autre côté du rocher, non, c'est une autre paire de manches, on retrouve un petit peu le même système.
Oui, alors en parlant de l'autre côté, le rocher d'or de Tchaktio n'est pas la fin du voyage, puisqu'évidemment c'est le must, si, mais la région de Tchaktio est vraiment vraiment sympathique, et il y a des choses à voir ailleurs, pas loin, en marchant un petit peu. Et toi, je sais que voilà, ta curiosité sans faille t'a poussé à aller voir ce qu'il y avait plus loin. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu ce qu'on peut faire autour.
Donc moi, il m'a fallu bien 3 ans, à partir de 3 ou 4 ans ou 5 ans à l'époque, pour contourner les militaires, parce que les militaires étaient de l'autre côté. Après, c'était un territoire interdit. Moi, je voulais partir sur les sentiers qui longeaient les collines, quoi, jusqu'à un stupa très particulier, que j'appelle depuis ce jour où je l'ai découvert, vers la fin des années 80, le stupa des hommes volants. C'est pour ça que j'aime Tchaktio aussi. C'est par ce stupa extraordinaire des hommes volants. Donc, passé la dernière pagode, quand on va de l'autre côté de l'esplanade du Rocher d'Or, on part sur des kilomètres. Des kilomètres en suivant des collines comme ça, à travers des nouveaux pagodons, des villages de moines là qui travaillent un petit peu. On voit que les gens sont très pauvres, les gamins sont cul nus, comme on dit. Et il faut faire des petites offrandes à chaque fois qu'on passe, donner un petit peu des kiats, ou si on a un dollar, souvent les Birmans disent dollar. Mais bon, il est bien d'avoir des petites pièces ou des petits billets de chat. La monnaie locale, on entend ces clochettes qui tintent là, le chant des pagodes encore une fois. Les pagodons, on les voit à perte de vue, ça émerge au-dessus de la végétation. Donc, moi, ce chemin, aucun étranger avant moi ne l'avait pris. C'est le seul. Alors, comment j'ai connu les hommes volants ? Ben, je les ai connus parce que j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Personne m'a dit, tiens, il y a des gars qui, des funambules qui se baladent sur un fil, à tel endroit. Non. Mais comme j'avais envie d'aller voir ce qu'il y avait après, par curiosité, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Aujourd'hui, hormis les quelques personnes qui sont venues avec moi, personne n'a rencontré ce monastère des hommes volants.
Encore une découverte dont tu as le secret. Alors, qu'est-ce qu'on y voit exactement à ce monastère et pourquoi tu le surnommes comme ça, le monastère des hommes volants ?
Alors, qu'est-ce qu'on y voit sur ce sentier ? D'abord, il faut à l'époque traverser un camp militaire. Donc moi, c'était pas prévu, je savais pas. Et moi, je rentre dans le camp. Parce que j'ai vu qu'il y avait, c'était pas des barblés, en plus c'est tout des bambous qui étaient comme ça en X. À l'époque c'était pour éviter que des guérilleros, de la guérilla puissent rentrer à l'intérieur du camp. Donc très dangereux, en plus ils sont acérés les bambous. Et je rentre et je dis Mingalaba. Mingalaba c'est le bonjour en birman. Et moi j'ai vu ce jour-là, je me rappellerai toujours parce que ça m'a marqué, c'était le jour où je suis allé découvrir après le monastère des hommes volants, j'ai vu un soldat qui avait un vieux fusil à la main mais qui était la tête toute abîmée. Et il y en a un qui m'appelle, il me dit, il m'a vu, donc il disait rien. Normalement j'avais pas le droit d'être là mais on m'a rien dit. Et le mec il m'a demandé s'il y avait des médicaments pour soigner le soldat. J'avais rien du tout, mais j'avais du paracétamol, j'avais de la bétadine dans le dharamsala où j'étais. Je suis remonté, bon, c'était pas très loin, mais j'ai fait tout le chemin inverse en repassant tout le Rocher d'Or, redescendre de l'autre côté pour aller chercher des médicaments. Et je suis retourné à cet endroit-là en passant comme ça pour pas que des militaires qui étaient au bout du Rocher d'Or me voient. Et j'ai soigné le gars. Et entre-temps, il y a d'autres militaires qui sont arrivés, qui sortaient des fourrés avec les mitraillettes et tout, et qui étaient surpris de me voir là. Mais bon, le gars, il leur a expliqué que j'étais là pour le soigner, donc on n'a rien dit. Et quand je suis reparti quelques minutes après, au loin, je me rappelle, comme il y a la plaine qui va donc sur la Thaïlande, sur le fleuve Salween, dont j'en ai pas parlé tout à l'heure, cet immense fleuve Salween avec beaucoup de rochers en pain de sucre. Absolument somptueux. Quand je suis remonté donc sur la colline et que j'ai regardé en direction du fleuve Salween et direction Thaïlande, j'ai vu qu'en bas il y avait un village et c'était pas des rizières qui brûlaient, hein, c'était un village qui brûlait, un village Mon. Donc Mon Karen. Donc je me suis dit que ces militaires qui revenaient, peut-être c'était eux qui avaient mis le feu et que le soldat, s'il avait une tête comme ça, c'est qu'il s'était battu dans la forêt, quoi. À l'époque, la Birmanie, entre le fait de voir des belles choses, d'avoir tout un peuple qui allait prier devant le Bouddha, devant le Rocher d'Or, et puis que à quelques encablures, quand on marche et que d'un seul coup on voit ça, y a un contraste qui est terrible. Mais c'est ce qui m'a permis de mieux comprendre la Birmanie, de mieux découvrir la Birmanie et de vouloir en savoir plus au fil du temps. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour te raconter ces histoires.
Nous faisons une petite pause dans l'interview pour que je puisse vous parler de Very Local Trip qui, vous le savez, sponsorise l'émission et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau. Je ne peux que vous conseiller de faire appel à eux si vous souhaitez vivre des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques. Alors le concept est simple, vous serez mis en relation avec un ami local francophone qui vous fera découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse conçue sur mesure en fonction de vos envies. Donc c'est l'occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques pratique tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter via leur site verylocaltrip.fr et de mentionner que vous venez de la part de Sur les routes de l'Asie, bien sûr. Je connais personnellement l'équipe qui est derrière cette belle initiative, donc vous pouvez y aller les yeux fermés et moi je les remercie de sponsoriser l'émission. Retour à l'interview.
Donc au bout de quelques kilomètres de marche donc sur ces collines, à l'aplomb de deux vallées, hein, là d'un seul coup je vois de plus en plus de jungle. Et on arrive à la pagode qui s'appelle la pagode Zedimon, une pagode du peuple Mon, où le pèlerin traditionnellement vient faire une offrande de cloches qui vont teinter dans le vent. Tu vois, et où un serviteur du lieu, mi-moine, mi-funambule, donc c'est pour ça que je les ai appelés les moines volants, parce que ce gars-là est capable de faire des choses. Il va porter la précieuse cloche au sommet du stupa. Mais comment est-ce qu'il va faire? Et c'est là, en pleine nature, que cette pagode, elle prend tout son sens, la pagode des hommes volants. Parce que ce moine équilibriste, il va aller au sommet du pagodon via une échelle de corde posée sur un pilier de bois, dont le sommet est déjà à une vingtaine de mètres de hauteur. Donc il y a une échelle comme ça qui monte sur un pilier en bois, 20 mètres de hauteur. De là, du sommet de ce morceau de bois, ce pilier de bois, qui est quand même assez costaud, bien planté, il y a une liane en rotin qui va au moins, je ne sais pas, à 30 à 40 mètres, qui va comme ça dans le vide jusqu'à un stupa. Stupa qui est posé sur un rocher du style rocher d'or. Et là-dessus, il va passer, il va marcher sur les lianes en rotin. 30 bons mètres en marchant. Des fois, il s'arrête, il écarte ses jambes, il s'assoit comme ça, il se relève et il va, et au mépris du vide, et il va jusqu'au bout. Donc, moi, c'est moi qui ai acheté une cloche en bas. Donc, je l'ai acheté dans le petit monastère, et pour faire pour mon karma, pour un bon karma, donc je l'ai donné à ce moine qui va monter, qui va l'accrocher là-haut au sommet du stupa. Et quand il est là-haut, en plus, tout de suite, la cloche va teinter, donc c'est bon pour mon karma, c'est bon pour tout le monde. Après, il faut qu'il redescende, le moine. Donc c'est là, il y a une corde en rotin qui descend de la base du stupa jusqu'en bas, à l'endroit où il est monté sur le rocher. Et là, comme un avion, il se couche sur le rotin et il descend les deux bras déployés à une vitesse phénoménale, et comme un moine volant, voilà. Et il se couche alors sur la corde et se laisse glisser à grande vitesse, les deux bras déployés, jusqu'au pied de la pagode. Bon, ben ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors moi, j'ai été tellement scotché la première fois que j'ai vu ça. J'avais acheté une cloche, j'en ai racheté une deuxième. Et je lui ai dit, tu vas recommencer. Il l'a refait. Et chaque fois que je vais à Tchakkyo, en général, je le fais deux fois, mais jamais trois, parce que le gars, il est exténué à la sortie. Parce qu'il marche sur le vide, non, un funambule, hein, au-dessus du vide, comme on peut en avoir chez nous. Et je dois dire que ça, c'était quand même fabuleux, parce que j'aurais jamais imaginé qu'il y ait des choses comme ça, quoi. Donc les pèlerins viennent, donc pour acquérir des mérites, ils achètent cette corde, et le moine volant, pour donner plus de mérites, pour lui-même aussi, pour les gens qui viennent et pour la pagode, récupérer des sous aussi, il fait ce trajet. Mais bon, un moine équilibriste sur son rotin, c'est extraordinaire, mais la descente en position avion, j'avoue que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Alors après, moi j'avais connu le père, donc bon, maintenant il est trop vieux, il peut plus faire ça. Et son fils a pris la relève, donc je l'ai vu il y a pas très longtemps en plus. Et le père, il me reconnaît, il sait, parce qu'il y a que moi qui viens. Des étrangers, il n'a pas beaucoup. Donc lui, maintenant, il est dedans, c'est lui qui donne la cloche et puis qui reçoit les sous. Donc voilà.
Ouais, non, c'est vraiment une curiosité qu'il faut pas manquer, je pense. Et les auditeurs sauront maintenant, s'ils planifient un voyage en Birmanie, voilà, il faut inclure ce monastère des hommes volants. Ce qui montre bien aussi que le rocher d'or n'est pas la seule chose à voir dans la région.
De toute façon, Tchakkyo reste Tchakkyo. C'est quand même ce rocher extraordinaire doré la feuille d'or. Mais c'est vrai que ce monastère des moines volants, ça reste aussi une deuxième aventure. Et ça permet de rester finalement deux jours sur place à Tchakkyo. 99,9% des touristes arrivent à Kinmon au départ de Rangoon. Ils montent dans une benne de camion, ils arrivent à Tchakkyo, ils passent une nuit à l'hôtel, ils vont visiter le rocher d'or, et tôt le lendemain matin, ils arrivent déjà en fin de journée, tôt le lendemain matin, bon, ils ont quand même le temps de voir le coucher de soleil et le lever de soleil, mais tôt le lendemain matin, ils sont déjà repartis. Donc ils ont vu les pèlerins, ils ont quand même vu ce qui était le plus important, mais ils sont pas allés se balader, jeter des pièces aussi dans une anfractuosité de rocher qui se trouve à 10 mètres au-dessus. Si elles passent dans l'anfractuosité de rocher, paf, on acquiert des bons mérites. Donc c'est tout un jeu, Tchakkyo. Puis c'est surtout une grande aventure. Puis en plus, quand on va vers ce monastère des moines volants, on fait vraiment du trek. Alors moi, ce que j'aime aussi au retour, c'est que quand on rentre de cette pagode des moines volants, à un moment donné, il y a un petit chemin qui descend en droite, pas loin du camp militaire, là, qui existe toujours, le camp militaire. Vous descendez, on va dans un monastère aussi, un grand monastère. Et il y a un moine qui vit tout seul, là, avec un stupa au milieu, avec des pleins de Bouddhas qui sont là au milieu de la nature. Et puis à côté, il y a quelques moines, des ponji. Et il y a un petit restaurant où on peut y manger. C'est là que je vais régulièrement manger maintenant, quand je vais à Chaktio. On y mange un plat de pâtes. Moi, avec mes trois mots de birman et puis eux, avec leurs deux mots d'anglais, bon, on arrive à discuter. Parce qu'ils sont tellement contents de voir un étranger. Tellement contents. Et c'est comme ça que un jour, aussi, comme je voyais toujours qu'il y avait des gens qui descendaient par un chemin, donc juste à côté de ce monastère, mais par ma curiosité, comme d'hab, j'ai dit, ben ça va où ça? Et la dame, justement, de ce restaurant me dit Ponji. Donc Ponji, ça veut dire moine. Donc j'ai compris que s'il y avait des Ponji en bas, c'est qu'il y a un monastère. Et ben, je suis descendu. C'était déjà midi, et j'ai demandé à peu près, je me suis fait comprendre, c'est à peu près à combien d'heures? Bon, les gens, ils allaient me dire 1 heure, 2 heures. Et il fallait revenir avant le coucher du soleil, parce que le soleil se couche très vite. Je savais pas où j'allais, donc je me dis, est-ce que je vais pouvoir revenir? Je vais pas me perdre en chemin. J'ai dit, allez, je suis parti. Puis comme je suis un sportif, hein, je suis descendu à fond les manettes, en pleine jungle. Et en plein milieu du chemin, qu'est-ce que je tombe sur des éléphants sauvages? Enfin, est-ce qu'ils étaient sauvages? J'en sais rien. Mais je me suis arrêté pile, comme déjà quand j'étais allé à Pacante en voiture. Mais là, à pied, c'était pas simple. Eux, ils ont pas bougé, et puis ils sont passés. Donc moi j'ai continué à fond, je suis descendu, puis à un moment donné le terrain se ralentissait, c'était la belle jungle, hein. Puis on descend dans les trous, en plus dans ces collines, c'est vraiment la jungle, telle qu'on l'a en Thaïlande, en Birmanie, au Laos. Donc ce sont des jungles même qui sont difficiles parfois, parce qu'il y a plein d'épineux. Et au bout du chemin, là, je vois un immense monastère. Donc j'avais compris que les ponjis étaient là. Il y a des petits ponjis, des petits moines qui étaient en train de jouer, je me souviens, au Shinlon, qui a un ballon, là, une balle en rotin. Et quand ils m'ont vu arriver, donc ils ont vu que j'étais un étranger, ils sont tous partis épouvantés, il n'y avait plus personne sur la place publique. Alors moi je suis rentré quand même là-dedans, j'avais vraiment pas le droit d'être là. Hein. Et comme j'ai vu un grand monastère qui était en béton et tout en bois au-dessus, ben, je suis rentré. J'ai dit je vais rentrer, j'enlève mes chaussures. Et puis là il y avait un moine tout sourire qui m'a regardé, qui bougeait pas. C'est vraiment le moine birman. Tu sens que c'est un gars qui est resté en méditation toute sa vie. Qui m'a regardé, un grand sourire qui me dit de m'asseoir. Je me suis assis à côté de lui et parlait un petit peu anglais. Et il m'a demandé qui j'étais, qu'est-ce que je faisais là. Donc je lui ai dit mon nom, je lui ai dit que je venais de Chaktio. J'ai bien compris aussi qu'il m'a dit que je n'avais pas le droit d'être là, que c'était quand même dangereux parce qu'il y a pas mal de militaires qui passaient dans le coin. Et qu'il m'enjoignait de repartir assez rapidement. Mais il m'a servi du thé birman. Je me souviens, là, ce bon thé birman, avec des petits sucres, là, les candies, un sucre candy. Et avant de partir, bon, j'ai compris qu'il fallait que je parte parce que c'était pas simple. Puis moi, je devais remonter, hein, malgré tout, ça remontait sec. Je lui ai laissé une carte de visite avec mon nom. Et je le revois toujours prendre cette carte de visite, la mettre dans un bouquin à lui très particulier. Clac. Et je suis remonté, donc j'avais qu'une trouille, c'était retombé sur les éléphants. Et puis j'ai eu personne, donc je suis remonté à une vitesse. Et en fin de journée, je me revois au soleil couchant au bord du rocher d'or là, j'avais racheté des feuilles d'or, en train de les coller. Il y avait un moine là dans sa robe safran qui était assis, carrément on aurait dit un Bouddha en pleine méditation. Le soleil couchant, je me suis dit, les journées à Chaktio sont absolument extraordinaires. Vraiment. Et ça m'a marqué. Et je sais que chaque fois que je vais dans ce pays, et si je demande à chaque voyageur qui va aller là-bas, qui écoute cette émission, allez à Chaktio parce que c'est un grand moment d'aventure. Et si vous pouvez le faire, bon, je dis pas qu'il faut pas monter en camion. C'est vrai que c'est plus rapide si on a peu de temps, mais faites la démarche de redescendre au moins, parce que cette descente c'est plus facile. Parce que plus de 1000 mètres, mine de rien, c'est difficile en montant. Mais à descendre, on peut y aller en courant, puis on voit plein de moines, on voit des gens qui jouent de la guitare. C'est fabuleux, quoi. Voilà.
Ouais, donc clairement, ça promet une ou deux journées d'exploration et de balade vraiment sympathiques. Alors pour finir, j'aimerais juste revenir sur un point un peu technique par rapport à ce rocher d'or. Bon, il doit faire, je sais pas combien de tonnes, il est quand même assez imposant. Et est-ce qu'on sait comment ce rocher s'est retrouvé là? Parce que je pense pas que ce soit les hommes qui l'aient déplacé, vu sa taille et son poids. Et est-ce qu'on sait aussi dater à partir de quand on a commencé à y apposer des feuilles d'or? Est-ce qu'on a des informations là-dessus?
Alors tout à l'heure, Romain, j'ai parlé de ce moine qui cherchait à poser les cheveux du Bouddha dans un endroit comme ça, posé dans ces collines mônes. La pagode du Rocher d'Or se trouve à 1100 mètres d'altitude déjà, donc sur le mont Chaktyo. Elle a été construite, la pagode, il y a 2500 ans. Elle contient un cheveu du Bouddha, donc comme je t'ai expliqué, qu'un ermite avait précieusement conservé dans son chignon. Donc c'est pour ça qu'elle est très vénérée dans le monde birman. Et cette pagode est une affirmation, je veux dire, permanente de la spiritualité des Birmans, de son site exceptionnel. Et quand bien même elle serait de petite taille, parce que c'est pas énorme ce rocher d'or, même s'il est gros, c'est quand même pas, c'est pas la pagode Shwedagon, hein. Elle est un des points de ralliement de tout Birman qui se doit de faire le pèlerinage au moins une fois dans sa vie. Et la pagode de Chaktyo est reconnue comme l'une des sept merveilles de l'Asie du Sud-Est par la grâce de cette pagode qui est posée sur un énorme rocher granitique recouvert de plaques et de feuilles d'or en équilibre précaire sur un rocher tabulaire. Aujourd'hui, je pense qu'il est absolument incroyable que ce rocher ait pu se tenir en position précaire depuis tant de siècles ou des millénaires, surtout que la région, en plus, elle est secouée par de violents séismes depuis la nuit des temps. La Birmanie est un pays très séismique et tous les bouddhistes attribuent ce pouvoir aux cheveux du Bouddha qui est enchâssé dans la pagode. Ce rocher rond posé sur une table est un phénomène naturel, comme on peut en voir comme ça dans les sites, dans les grands sites grandioses des déserts américains ou ailleurs en Asie. Donc finalement, c'était l'endroit rêvé pour y construire une pagode. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ce rocher qui pèse, j'en sais rien, hein, des milliers de tonnes, on peut le faire bouger. Et je l'ai vu. Une seule personne peut le faire bouger. Un moine m'a fait voir. Il s'est mis dans un coin bien particulier du rocher. Avec son épaule, il l'a fait bouger. Et comment on sait qu'il bouge? Parce qu'on le voit pas bouger. On y met des petits morceaux de bambou qui font peut-être 10 centimètres comme ça. On en met plusieurs, mais très fins. Et puis quand il se met à faire ça, t'as les bambous qui se plient. Donc on voit. Et si on se met dans un certain angle au soleil couchant, quand le soleil arrive au ras, là, en descendant sur la plaine du Sitong, on regarde le rayon de lumière qui passe, ben, il traverse tout le rocher, entre la plaque tabulaire et le rocher. Donc c'est pour ça que c'est extraordinaire qu'il soit encore, je dirais, posé, parce que vu les violents séismes, comme je l'ai dit, c'est incroyable qu'il reste debout. Donc peut-être que la pagode aussi, mise dans un certain angle, elle tient ça, et notamment aussi peut-être sa contrebalance avec les milliers et les dizaines de milliers de feuilles d'or qui sont posées toujours au même endroit. Après les grandes pluies de mousson, de temps en temps, il faut le redorer. Mais ça, ce sont des équipes de professionnels qui font ça, mais ils n'en mettent pas beaucoup. Alors que le peuple, en permanence, va coller des milliers de feuilles qui fait une épaisseur de plusieurs centimètres. Et c'est vrai que ça peut contrebalancer l'angle du rocher.
On peut quand même pas dire que ça représente un risque pour que le rocher, voilà, bouge et peut-être tombe un jour, puisque bon, tous ces milliers de feuilles d'or, au bout d'un moment, ça va commencer à faire un poids, non?
Oui, le rocher grossit avec le temps, mais bon, je pense que c'est pas énorme, parce que les feuilles d'or sont tellement minuscules. Mais c'est vrai que quand on voit les cinq Bouddhas d'or dans la pagode, au Lac Inlay, hein, la Phong Do Pagoda, ou que l'on voit la Mahamuni à Mandalay, on comprend vite que l'or, c'est des kilos et des kilos qui sont posés au fil des années, quoi. Donc finalement, sur la pagode de Chaktyo, c'est pareil. Donc pour moi, Chaktyo est un site absolument extraordinaire qu'il faut aller visiter en Birmanie.
Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup Thierry, comme à chaque fois, de nous faire partager tes aventures, tes découvertes, et puis voilà, des petites anecdotes de voyage, comment tu as découvert les lieux que tu nous fais découvrir. C'est toujours très enrichissant, et c'est clair qu'aller en Birmanie, il va falloir aller au Rocher d'Or pour s'imprégner de toute cette magie, de toute la spiritualité aussi qui l'entoure. On n'est vraiment pas au bout de nos découvertes sur la Birmanie. Allez, donne-nous un indice sur là où on va aller la prochaine fois avec toi.
Alors écoute, Romain, en Birmanie, ben je pense que on est loin d'avoir fini nos émissions, donc on va peut-être pas y passer tout le temps. On va aller se balader un petit peu à travers toute cette Asie du Sud-Est, mais on va très certainement aller dans le grand nord birman, près des dernières montagnes de l'Himalaya, du mont Kakaborazi, et puis il y aura très certainement un arrêt aussi chez les femmes girafes, qui sont quand même un peuple aussi des plus extraordinaires, et je crois qu'il faut en parler dans le territoire karéni.
Eh bien, on n'y manquera pas. Merci Thierry, et puis à bientôt.
Merci Romain.
Nous voilà au bout de ce 51e épisode de Sur les routes de l'Asie et le 5e sur la Birmanie. J'espère que ça vous aura plu et donné des idées si vous-même vous planifiez pour bientôt un voyage dans ce merveilleux pays qui est certainement l'un des plus beaux de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie. Et voilà, si vous voulez vous y rendre bientôt, n'hésitez pas surtout à bien suivre les conseils donnés dans ces différents épisodes. Vous ne le regretterez pas. Ce que vous ne regretterez pas non plus, c'est si vous suivez la page Facebook de Sur les routes de l'Asie, où je poste pas mal de choses en ce moment. Depuis le début de l'année notamment, je poste une photo par jour. Et puis là, je commence à poster des petites vidéos où je vous interpelle, chers auditeurs, en vous posant des questions sur l'émission, pour aussi recueillir des idées. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la page Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre. Et on approche très bientôt des 1000 fans, donc merci beaucoup à vous. Ce qui me ferait très plaisir aussi, c'est si vous prenez les deux petites minutes nécessaires pour laisser des étoiles et un commentaire sur la page iTunes de l'émission. Je voudrais citer aujourd'hui Asylum35 qui a laissé 5 étoiles avec ce commentaire. Merci pour ce super podcast de découverte et de voyage. Les deux épisodes sur Taïwan m'ont donné une forte envie de découvrir cette île. Merci beaucoup. Et ben non, merci beaucoup à toi pour ce commentaire. Et j'espère que maintenant, t'as aussi envie d'aller en Birmanie, découvrir au moins les 5 lieux dont on a parlé jusqu'alors. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode et sur Facebook. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.